bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM, c'est le 360e rendez-vous avec vous, voilà, ce jeudi soir à 19h. Et donc aujourd'hui, nous allons recevoir une association qui est récente, qui s'appelle les Amis de Séverine, représentée par deux présidentes, hein, ça rigole pas, hein, donc deux coprésidentes, voilà, Laurence Ducousseau-Lacaze, bonjour Laurence.
Bonjour.
Et Sophie Mucianese. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Et donc aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec votre association et de Séverine, parce que Séverine, ce n'est pas son vrai nom. Hein. On va en parler juste après. Avant, je vais vous présenter l'équipe qui m'accompagne. Donc Luc à la technique, notre marsouin, voilà. Et Olivier Patient, de retour sur les ondes de RVM. Bonjour Olivier.
Bonjour Fred. Donc, bonjour Olivier, chers auditeurs.
C'est notre hérisson à plume, on va dire, voilà. C'est celui qui gratte un petit peu, voilà, qui fouille.
Voilà, celui qui donne la parole aux mots.
Exactement. Donc, les auditeurs, si vous voulez réagir à cette émission, il y a le Facebook de RVM FM, le téléphone 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Nous transmettrons les questions, si besoin, à nos amis de Séverine. Voilà. Alors, mesdames, ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on a envie de vous connaître. Et j'aimerais bien que vous vous présentiez aux éditeurs, s'il vous plaît. On commence par qui ?
Bah, écoutez, je vais commencer.
Alors, donc, une présidente qui commence.
Voilà. Donc, effectivement, donc, moi, je suis Laurence Ducousseau-Lacaze et je suis coprésidente avec Sophie des Amis de Séverine. Et je suis par ailleurs professeure de lettres. Alors, je le précise parce que c'est important un petit peu dans l'histoire de l'association.
Voilà, moi je suis Sophie Mucianese, donc coprésidente avec Laurence, et je suis aussi professeure de lettres en lycée. Donc nous sommes aussi non seulement deux coprésidentes, mais deux collègues.
Voilà. Lycée de Villers-Cotterêts, c'est ça ?
Voilà, nous sommes au lycée de Villers-Cotterêts toutes les deux.
Lycée
Très
européen.
Bien. Voilà. Donc on a envie de savoir pourquoi vous avez créé cette association. Est-ce qu'on peut déjà parler de Séverine, faire connaissance avec elle ? Qui est Séverine ?
Alors, écoutez, Séverine, c'est une journaliste. Alors, je vais donner ses dates de naissance et de décès pour que ça soit plus facile de la situer. Donc, elle est née en 1855 et elle est morte en 1929. Et donc, on peut la considérer comme la première journaliste professionnelle, c'est-à-dire la première femme journaliste professionnelle, parce que d'abord, elle a été à la tête d'un journal. Le Cri du Peuple de Jules Vallès. Quand Jules Vallès est mort, donc elle a repris le Cri du Peuple. Mais elle a aussi participé à de nombreux journaux. Elle a écrit pour de nombreux journaux, puisqu'on considère qu'elle a écrit plus de 6000 articles et qu'elle a en gros participé, contribué à une centaine de journaux. Et des journaux qui, à son époque, étaient des journaux de premier plan, c'est-à-dire des journaux nationaux, des quotidiens nationaux. Et également, elle est considérée comme une journaliste professionnelle de par sa façon de pratiquer le journalisme. J'y reviendrai peut-être, on aura l'occasion d'en parler, notamment le reportage qui, à cette époque, se développe, hein, puisqu'on est fin du 19e siècle et que la presse est en plein essor. Et donc, elle va pratiquer ce genre qui n'est pas, a priori, un genre qui est beaucoup pratiqué par les femmes. Quoi. Les femmes sont peu présentes dans la presse, même s'il y en a, mais peu présentes dans le reportage.
Elle fait effectivement ce qu'on appelle du journalisme d'immersion, c'est-à-dire qu'elle va se rendre sur place dans les différents lieux. Éventuellement, par exemple, dans le cas de grève, elle va carrément travailler en tant que casseuse de sucre au moment des grèves des casseuses de sucre. Et donc, elle prend la place à ce moment-là des grévistes, et ça lui permet d'avoir vraiment une vision de l'intérieur, en fait, et de rendre compte des différentes actions qui peuvent se produire de l'intérieur. Et de la même manière, elle n'hésite pas, effectivement, à descendre dans la mine à Saint-Étienne. Oui. Voilà, elle se rend sur place au moment de l'incendie de l'Opéra Comique, et elle est vraiment au cœur de l'action, en fait. Et ça lui permet d'avoir une parole qui est aussi une parole très justifiée, en fait, par rapport à ce qu'elle dit, à ce qu'elle avance. C'est à partir de ce qu'elle a vu. elle pratique du journalisme debout et pas du journalisme assis.
Et donc, c'était vraiment la première femme qui avait pu faire ça, alors c'est ça ?
Alors, écoutez, alors, avant Séverine, il y a eu des femmes journalistes, mais effectivement, on parlait plutôt de journalisme assis, c'est-à-dire que du journalisme qui est fait chez soi, écrire des chroniques. Or, elle, elle sort et elle va sur le terrain.
Elle est sur le terrain.
Et ça, c'est vraiment une grande nouveauté de l'époque. Et le fait que ce soit une femme, parce qu'elle va être amenée à se rendre, à occuper l'espace public. Ça, donc déjà, c'est une nouveauté. Mais en plus, à se rendre dans des lieux où les femmes ne sont généralement pas présentes. Parce que je rappelle quand même que, bien sûr, les femmes n'ont pas le droit de vote. Donc, de fait, elles sont souvent exclues d'une partie de la vie publique. Et donc, elle, par ses reportages, va se retrouver dans des lieux d'où les femmes sont généralement absentes.
C'est le cas de la mine, hein, en particulier. Oui. Elle va se vêtir pour pouvoir rentrer dans la mine, abandonner ses vêtements, comme elle dit, ses fanfreluches, et puis descendre avec les hommes dans la mine. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement remarquable pour son époque.
Ouais. Alors, il faut préciser que Séverine, c'est son pseudo.
Voilà.
Parce qu'elle est née Caroline Rémy.
Tout à fait, oui. C'est vrai qu'on aurait pu le préciser dès le début. Elle est née Caroline Rémy. Et donc, elle a été mariée aussi. Donc, alors, quand on travaille sur Séverine, c'est ce qui est amusant, c'est que Séverine, elle a plein de noms, en fait. Donc, il y a Séverine, il y a Caroline Rémy, qui est son nom de naissance, mais aussi, elle a été mariée avec Adrien Guébart, hein, qui, d'ailleurs, leur tombe se trouve à Pierrefonds. Donc, je ne sais plus si j'ai dit que Séverine avait vécu à Pierrefonds.
Non, on ne l'a pas encore évoqué,
c'est fait. J'aurais peut-être pu commencer par ça, ce qui explique notre intérêt aussi. Et donc, elle a pris pour écrire ce pseudonyme. Et au début, elle avait pris comme pseudonyme Séverin, comme faisaient souvent des femmes à l'époque qui écrivaient notamment dans la presse, un pseudonyme masculin. Mais très rapidement, elle a abandonné pour se faire appeler Séverine. Et elle avait en fait plusieurs autres pseudonymes quand elle écrivait. Et donc en fait, elle pouvait se répondre d'un journal à l'autre. Oui. Donc on la trouve sous différents noms. C'est ça aussi qui est un peu difficile quand on fait des recherches parce qu'on ne sait pas trop où la trouver, sous quel nom. Et donc, elle jouait avec ses différentes identités travailler, collaborer dans différents journaux.
C'était la Arsène Lupin du journalisme, alors.
Un petit peu de ça.
Okay, ouais. Je vois, elle écrivait pour le Gil Blas sous le nom de Jacqueline, ouais, voilà. Pour le Gaulois sous le nom de René. Ouais. Et dans le Gaulois, elle écrivait des articles sur Séverine. Voilà, et dans Gil Blas, elle écrivait des articles sur René.
Il y a un jeu de dialogue entre ces
différents personnages aussi. Parce que du coup, ce n'était pas nécessairement le même ton qu'elle allait adopter dans un journal ou dans l'autre. Et il y a effectivement ce jeu de dialogue entre les différents pseudos. En même temps, personne n'est dupe. C'est-à-dire que tout le monde sait très bien que derrière tous ces pseudonymes, c'est Séverine.
Oui,
donc, qui devient d'ailleurs... ça passe donc de Séverin à Séverine et qui devient Madame Séverine. C'est-à-dire qu'ensuite, elle est vraiment... Ce prénom devient vraiment un nom propre.
Donc, elle a gagné ses lettres de noblesse pour des professeurs de lettres. Hein, voilà, on est dedans. Et donc, les hommes lui ont fait confiance.
C'est le moins compliqué. Oui.
C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que Séverine, de son époque, a été quelqu'un d'extrêmement célèbre. Alors, pour s'en convaincre, il suffit de regarder, par exemple, si vous cherchez des cartes postales, vous trouvez énormément de cartes postales qui représentent Séverine à Pierrefonds. Hein, où on voit le château de Pierrefonds, souvent en arrière-plan. Il y a sa maison. On trouve également des cartes postales avec sa maison. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle a été représentée par des peintres de l'époque. Par exemple, on a un portrait fait par Renoir.
Renoir, magnifique.
Voilà.
Magnifique,
Rodin, qui c'est moins connu. On a un masque de Séverine fait par Rodin. Et on a même des portraits réalisés par les ateliers Nadar, qui quand même à l'époque ont photographié tout ce qui se faisait comme célébrité dans les arts et la littérature. Donc, tout ça montre la grande célébrité de Séverine à l'époque. Et avoir, alors à l'époque, on parlait d'article de tête, hein, le premier article, avoir la signature de Séverine, c'était le gage de vendre le journal. Alors, si c'était elle qui signait, on savait qu'on allait vendre.
Il y avait de la... Voilà, d'accord.
Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, effectivement, elle négociait ses contrats. Enfin, on le voit avec Marguerite Durand quand elle travaille pour La Fronde, donc journal entièrement réalisé par des femmes. Elle négocie ses conditions pour travailler au journal, ce qui est là aussi assez rare. Mais ça prouve que c'est un nom célèbre.
Voilà, elle était suivie par les lecteurs. Alors,
et
ça,
en plus, ouais. Elle aborde des sujets qui ne sont pas des sujets habituellement abordés par les femmes. Encore une fois, La Fronde, par exemple, ça n'est effectivement pas un journal de presse féminine. C'est un journal généraliste. Et Séverine, elle aborde les questions politiques, ce qui est extrêmement rare
pour une femme. Oui, pour une femme qui peut parler de politique, oui.
Et c'est une polémiste, hein, parce que c'est-à-dire que nous, ce qui nous
intéresse,
voilà, nous, ce qui nous intéresse aussi chez Séverine, en dehors de cette célébrité, c'est que c'est une plume. C'est-à-dire que on l'a dit, on est professeur de lettres, et c'est vrai que quand on lit ses articles, on peut avoir des frissons tant elle a une verve. Et en même temps, elle est capable d'émouvoir énormément son lecteur ou sa lectrice. Donc, c'est une plume, Séverine, aussi. Donc, vraiment, on a là quelqu'un de vraiment très intéressant, quoi.
Voilà. Moi, j'ai été assez surprise. Il y a relativement peu de temps, j'ai été contactée par une journaliste qui découvrait Séverine. Et qui nous a contactés donc au titre de l'association et qui s'est plongée donc dans les articles que Séverine a pu écrire sur les mines à Saint-Étienne. Et elle ne connaissait pas du tout, donc elle était très étonnée parce que elle-même elle est sur le département de la Loire. Et elle me dit, en fait, c'est fou, mais quand elle s'adresse à ses lecteurs, elle a vraiment une écriture qui est très moderne. Et quand on lit ses articles, on ne peut pas rester indifférent. C'est-à-dire qu'il y a un souffle extraordinaire. Au niveau de la qualité de son écriture, c'est exceptionnel.
Donc c'est comme ça qu'elle captivait les lecteurs,
Oui, bien sûr. Oui.
Avec son écriture.
Oui, elle a vraiment une écriture et qui continue à nous toucher et à nous parler. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est capable d'aller chercher la fibre pathétique chez les lecteurs, mais en même temps, effectivement, elle n'a absolument pas peur de faire ce journalisme d'investigation, c'est-à-dire de poser les questions qui fâchent, de cibler sur des points qui peuvent être des points conflictuels. Et elle n'a pas peur aussi d'aller au combat dans les articles avec des adversaires journalistes qui sont tous des hommes.
Oui. On a bien compris que oui, la place des femmes à cette époque-là,
oui,
c'était pas top top. Hein.
Et donc là, vous nous avez dit qu'elle était très célèbre en tant que journaliste, mais là je vois dans un article que l'affaire Dreyfus, pour lequel elle a pris part pour Dreyfus, son engagement lui a fermé la porte de pas mal de journaux et qu'elle a eu beaucoup de mal à gagner sa vie après.
Bien sûr.
Elle a rebondi, non ? Après, elle a rebondi quand voilà. même sur.
C'est un moment de bascule.
Voilà. C'est un moment de bascule et ça montre aussi que Séverine, c'est une femme de conviction parce qu'elle a eu, elle a collaboré à des journaux divers et variés dont on pourrait dire qu'ils sont de bord politique difficilement conciliable, hein, puisqu'elle a aussi collaboré à la Libre Parole de Drummond, par exemple, hein, qui était quand même un antisémite notoire.
Hein. Oui. Et donc,
par ailleurs, elle s'est pleinement engagée dans l'affaire Dreyfus avec La Fronde de Marguerite Durand, d'ailleurs, puisqu'elle écrivait pour La Fronde. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que La Fronde, donc Sophie l'a dit, c'était un journal entièrement conçu et réalisé par des femmes, c'est-à-dire mais réalisé aussi dans sa matérialité, hein, parce que c'est ça qui est intéressant, par des femmes. Et ce qui est moins connu, un journal qui n'est pas forcément connu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que La Fronde a publié le lendemain de l'aurore l'article de Zola, J'accuse. C'est-à-dire que le lendemain, on pouvait lire cette lettre ouverte dans La Fronde. Donc c'est dire que l'engagement quand même de ce journal. Et les journalistes de La Fronde ont été tout de suite refusardes, dont Séverine, quitte à effectivement se fermer certaines portes, mais c'était ses convictions. Et Séverine était vraiment attachée à la justice.
Oui, l'équité.
Oui, elle s'est battue pour pas mal de causes dans le milieu social, pour le droit des votes des femmes, pour le
qui est venu plus tardivement pour le coup dans son engagement le droit des votes des femmes.
Mais elle s'est battue vraiment pour les mineurs, pour les crèves. Enfin, elle s'est battue vraiment pour toutes les causes sociales. Elle était très engagée. Elle reconnaissait ses erreurs aussi. C'était vraiment une femme
Elle s'est battue par exemple pour une femme qui était une avorteuse. Donc très tôt en fait, elle va prendre position pour le droit à l'avortement et elle défend donc les fameuses faiseuses d'anges. En montrant qu'en fin de compte, si les femmes se retrouvent dans ces situations, ce ne sont pas les femmes qu'il faut accuser, mais c'est la société qui les amène à être obligées d'avorter parce que finalement, elles n'ont pas de capacité financière à élever leurs enfants. Et il y a un article dans lequel, justement, elle prend position. Alors, c'est pour une femme, donc une avorteuse, qui va être jugée et condamnée. Et elle met en parallèle une autre femme qui est une mère qui a martyrisé son enfant et qui a pris à peine 6 mois de prison, alors que l'autre va prendre des années et des années de prison. Et elle dit, mais finalement, alors voilà, on va s'en prendre à la femme qui est une avorteuse, mais qui, d'une certaine manière, fait un travail, j'ai envie de dire, d'intérêt public. Et on ne condamne pas un parent qui est tortionnaire. Enfin. Donc ce qu'elle cible à chaque fois, c'est le problème social qu'il y a derrière un cas particulier. Et à chaque fois qu'elle prend défense d'un cas particulier, c'est toujours pour faire ressortir l'injustice sociale et la misère sociale. Et en fait, elle est toujours, et ça elle le dit, du côté des pauvres. Oui. Elle le dit malgré leurs fautes, malgré leurs erreurs, malgré leurs crimes.
Et en plus, 100 ans après, on a encore ces sujets-là qui sont d'actualité.
Oui. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très frappant quand on lit les articles de Séverine. C'est la modernité des sujets et la modernité aussi de son engagement. C'est-à-dire qu'elle prend parti pour des causes à une époque où ça n'est pas du tout le discours ambiant. On parle là du droit à l'avortement. On est à la fin du 19e siècle. La question de Dreyfus, tout de suite, quand elle est persuadée que Dreyfus est innocent, elle prend position pour Dreyfus. Mais d'abord, elle se fait sa conviction, là aussi. Et c'est pareil au moment de la guerre de 14. Elle est fondamentalement pacifiste. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'air du temps.
Oui.
C'est pas à la mode d'être pacifiste en 14.
En 14, c'est une position très difficile.
Oui, c'est très difficile à tenir. Et ça explique aussi qu'effectivement, après la guerre de 14, c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Par contre, on la retrouve, alors cette fois-ci plus dans des articles, mais on va la retrouver dans des discours. En fait, elle est restée aussi célèbre comme étant une grande oratrice. La difficulté, évidemment, à laquelle on est confronté, c'est que pour le coup, les discours, il n'y a pas d'enregistrement. Donc autant les articles, eh bien, on peut les lire, on les trouve sur Gallica, les discours, il n'y a pas d'enregistrement. Mais par exemple... elle prend parti pour Sacco et Vanzetti, dans le procès Sacco et Vanzetti. Donc, et ça, c'est un de ses derniers grands combats.
On peut rappeler cette affaire, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ?
C'est une sorte de deux anarchistes italiens qui sont jugés aux États-Unis. Voilà. Et donc, elle va effectivement... procès qui a un retentissement international, et elle prend position pour ces anarchistes.
OK. Olivier, on te laisse faire ta petite chronique ?
Eh bien, allons-y alors.
Les mots d'Olivier, ils ont la parole et sont libres d'expression.
Pourquoi Séverine ? Et pourquoi pas Caroline ? En 1855, Caroline Rémy naît et n'est pas Séverine, du moins pas encore et d'esprit. C'est en 1880, aux côtés de Vallès, que certains diront qu'il est son Jules, qu'elle crée le journal Le Cri du Peuple et publie son premier article sous le pseudonyme non pas de Séverine, mais de Séverin. Alors pourquoi plus Caroline ? Être ou ne pas être ? Pour la future féministe engagée qui rêvait d'être actrice, la question ne se pose pas.
Elle signe Séverin, comme d'autres signent Zorro, et sans aide, elle devient journaliste enragée militante. Étrange, curieux, suspect, inquiétant, étonnant, penseriez-vous avec raison, mâles auditeurs, que la légendaire icône du féministe répudie son prénom estampillé féminin pour un prénom purement masculin. Étudions le fait. Caroline, Carolus en latin, et Carolin pour le parquet, prénom d'origine germanique vient de Karl, qui signifie « fort et viril ». Adjectif, vous le reconnaissez, féministe auditrice, empreint de masculinité testotéronée. Et en 1880, la femme qui combat les préceptes surannés et rétrogrades d'une société patriarcale pour devenir une femme libre et indépendante de corps et d'esprit se doit d'être forte et virile. Mais si, comme dirait Jésus, Caro vient de Karl, Lynn, d'origine germanique, lui aussi veut dire douce. Caroline, force et douceur dans un monde de brutes. N'est-ce pas là l'idéal féminin dont rêve ce monde mal mené? Alors pourquoi Séverin? Pourquoi Séverine? Alors quoi? Notre féministe, Caroline Rémy, n'assume-t-elle donc point sa féminité quand elle signe du nom de Séverin? Séverin qui prend racine dans le mot sève et non le contraire. Sève, matière organique, liquide où coule la vie, et rein, qui vient de bas du dos, ce qui, admettons, mesdames, vous en fiche un coup. Mais rassurez-vous, auditrice offusquée, mais quand même émancipée, Caroline Rémy va prestement féminiser son pseudo en Séverine. Séverine, prénom d'origine arabe et latine, vient de Severus, et du préfixe sévère qui veut dire grave et sérieux, et du suffixe russe qui, lui, ne veut pas dire communiste. Ainsi donc, de Caroline naît Séverine, la douceur grave d'une force sévère pour lutter contre l'iniquité. Caroline Séverine, deux prénoms qui, comme dirait le poète, se répondent par la rime « in ». « In » du latin anglophone qui veut dire « in », être dans le coup de poing levé sur le « i » des injustices. Séverine d'hier et de toujours, passionnée et passionnante, engagée et engageante. Femme féministe dans un monde où le mot « verge » est féminin et le mot « vagin » masculin. Séverine, moitié féministe, moitié... Mais que dis-je, moitié? De nos jours, Séverine dirait « Séverine, mi tout féministe, mi tout libertaire ».
Bravo Olivier. Mesdames, prof de lettres, un commentaire?
Eh ben, alors moi j'aurais un commentaire à faire à propos de Séverin. Alors c'est une hypothèse hein, qui est indiquée dans un des ouvrages de Séverine, dans une préface à propos de Séverin, que j'ai lu il y a relativement peu de temps. Donc il serait possible qu'en fait elle ait décidé de choisir ce nom à partir du nom d'un saint, qui était un saint parisien, qui a vécu au VIe siècle, et qui est connu comme étant un homme qui avait choisi une vie de renoncement, de simplicité et de dénuement. Et en fait, il est représentatif à Paris du Paris des pauvres. Et comme Séverine est fondamentalement et d'abord une Parisienne, ça n'est pas inimaginable. Il existe à Paris l'église Saint-Séverin.
D'accord. Et elle était croyante, Séverine?
Alors... elle a été élevée avec... elle a reçu une éducation bourgeoise. Hein, elle venait d'une famille bourgeoise. Donc, elle a reçu une éducation catholique. Mais ensuite, c'est une femme qui, encore une fois, est anarchiste. Donc, elle ne fait pas profession de foi, en tout cas pas du tout dans ses articles. Mais on sent qu'il y a une culture profondément, on en parlait encore tout à l'heure, profondément, je dirais, évangélique. Qui reste dans ses convictions, et sans aucun doute son attachement justement pour les pauvres, pour tous ceux qui ont besoin d'aide, pour tous les persécutés, pour tous les malheureux de la création, va aussi trouver des origines dans cette sensibilité-là.
Disons que par rapport effectivement à la défense des déshérités, elle le dit clairement aussi, c'est-à-dire qu'elle a cette sensibilité. Mais elle va être à l'école de Jules Vallès, qui va vraiment éveiller sa conscience sociale et politique, en fait. Hein. C'est là qu'elle va vraiment faire ce travail et toute cette prise de conscience.
Et effectivement, avec Vallès, elle est à l'école d'un journalisme d'engagement, encore une fois, d'un journalisme politique et d'un journalisme qui est profondément enracinée dans un socialisme, en fait. Mais ensuite, elle va se détacher du cri du peuple, aussi parce que, justement, elle trouve que ça a été... Alors qu'elle en a été la présidente pendant 3 ans, je crois, de 85 à 88, parce qu'elle trouve que ça devient trop doctrinaire et que ça a été... phagocyté par un certain nombre de personnes qui sont trop doctrinaires. Et elle refuse, Laurence disait tout à l'heure qu'elle a écrit pour plus de 100 journaux, avec des obédiences politiques extrêmement variées, enfin un échiquier politique très très large, et en fait elle refuse d'être estampillée. Et ça, elle le dit hein, dans l'article où elle dit adieu au cri du peuple. Voilà, elle dit « Je commence à croire que je suis trop libertaire pour écrire jamais dans un journal d'école socialiste. J'aime l'indépendance de l'adversaire autant que la mienne propre. Je conçois que le cerveau du voisin ne soit pas moulé sur le mien. Nous sommes comme ça dans la famille. » Vallès réclamait la liberté sans rivage. Et sous la Commune, il était le seul à protester contre la suppression du Figaro. J'ai donc reçu de détestables enseignements et je m'y suis tenue.
Voilà. Oui, c'est une grande histoire. Elle est Vallès.
Très grande histoire.
Il est mort chez elle, d'ailleurs.
En fait, il est mort. Il est mort dans ses bras, en fait. Ouais. Et elle rencontre Vallès lors d'un voyage à Bruxelles en 1880. Et Vallès va la prendre sous son aile et lui apprendre son métier de journaliste. Et quelque part, il va lui désapprendre aussi, justement, comme elle le dit elle-même, hein, toutes ces mauvaises manières de petite bourgeoise et tous ces préjugés, en fait. Il va déconstruire en elle, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, hein, cette idée de la déconstruction, mais c'est exactement ça, en fait. Il déconstruit en elle un certain nombre de préjugés de classe et il lui fait comprendre et ouvrir les yeux sur la misère environnante. Et donc, elle est à l'école de Vallès, oui, clairement.
Et en plus, en dehors ce qui est déjà énorme, des idées politiques et de l'école du journalisme, avec Vallès aussi, elle travaille son écriture. Parce que Vallès écrit, hein, c'est quand même un grand romancier, et il lui envoie... certaines de ses épreuves et il lui demande vraiment de ne pas se contenter de relire pour corriger 2-3 choses annexes. Il veut vraiment qu'elle retravaille son style et qu'elle apporte des modifications. Donc c'est aussi, on parlait de l'écriture de Séverine, c'est aussi là une école de l'écriture et du style.
C'est quelqu'un qui n'a pas le baccalauréat ? Alors que les femmes pouvaient passer le bac depuis, je crois que c'est 1861. Donc, voilà, elle n'a pas fait d'études, en fait. Donc, quand elle commence à écrire, elle ne sait pas écrire d'article. Et effectivement, c'est une grande histoire avec Vallès, puisqu'en fait, elle est beaucoup plus jeune que lui. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on les a accusés d'être amants et maîtresses. Elle a toujours nié quoi que ce soit. À la limite, ils s'en amusaient l'un et l'autre. Et ils avaient une relation qui... Alors, dans un article anniversaire de la mort de Vallès, elle dit à quel point ça pouvait les amuser, en fait, qu'on les croit amants et maîtresses. Et elle parle de Vallès en disant « Il était à la fois mon père et mon enfant. » Son père par tout ce qu'il lui a appris, et puis mon enfant parce qu'elle l'a effectivement soigné jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Et que dans son dernier dénuement, en fait, elle a accueilli cette vieillesse de Vallès, et là, il est devenu son enfant. Donc il y a vraiment une relation entre les deux qui est exceptionnelle.
Je vous propose le choix musical de nos invités.
Dans un corps vide, entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rétine, en l'une ou l'autre sans racine. Et lire parmi les éminentes, celles qui me forêt frissonnante, parmi toutes celles qui sur se battre, qui sur t'aimer, qui sur se battre, mes sœurs innées, mes Philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin, Garbeau dans la reine Christine, sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mademoiselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore Colombe ou Rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse, naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ces divergences, ces beautés, ces intelligences, et jouir du bien, ne retrait pas, pour dans leur pas mettre mes pas, Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les. Dans la cour des grandes, Judy Garland, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loï Fuller, Dottie Parker, ou Sainte Josephine Baker. Oui, tout de suite, les feux de la gloire, les feux de la rampe, et de l'histoire, la Yourcenar, Sarah Bernhardt, ou la Teresa Simone de Beauvoir, une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or, la Solidor, Christiane Rochefort, ou Marceline Desbordes-Valmore, les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au fort de la mitraille, Sylvia Bataille, brandissant l'espoir et la gouge, Olympe de Gouges, Rosala Rouge, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, l'Élise, Madame Donia ou Miss, comme Coriotis, Oulatis, Angela Elvet et Davis. Le train du diable et ses diablesses, les vénéneuses et les Lola Montes, Gina Manès, l'empoisonneuse Rosina Lucrèce. Enfin, je pourrais être sincère, du goût pour les belles arrangères. Mais si tant de souhaits vous chagrinent, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat, en attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule, ou que les anges me fassent la fête, permettez une ultime requête, faites-la renaître, votre frangine, en n'importe qui, en fille d'usine, en fille de rien ou de cuisine, en croate ou en maghrébine, en éponine, en clémentine, en malka malika ou marilyn. Et si votre astrale cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en cabotine, en libertine, en gourmandine, en pitié même Juliette Nouredine.
Mesdames, vous pouvez nous présenter votre choix musical, s'il vous plaît.
Oui, mais écoutez, avec grand plaisir. Donc, on a choisi donc Rime féminine de Juliette. D'abord parce que c'est une très belle chanson. J'espère que vos auditeurs et auditrices l'ont appréciée. Qui est là, en plus, dans une version qui vraiment donne beaucoup d'énergie. Et c'est vrai qu'elle fait... une espèce de catalogue des femmes qui ont compté et qui comptent pour elles, dont certaines sont oubliées. Et c'est vrai que cette chanson illustre parfaitement notre démarche et notre objectif dans notre association, quoi. C'est pour ça qu'on l'a choisie.
Eh bien, très beau choix musical.
Merci.
Donc, vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est votre émission Le Bouche à Oreille qui reçoit aujourd'hui l'association Les Amis de Séverine. Alors, mesdames, moi, j'aimerais avoir un petit peu plus de savoir pourquoi vous avez choisi de créer cette association. Qu'est-ce qui a été le déclencheur et comment avez-vous connu Séverine ?
Alors, moi, je vais présenter la manière dont j'ai découvert Séverine. En fait, j'ai découvert Séverine grâce à Laurence, qui l'a découverte avant moi, qui avait déjà fait des recherches, en fait, sur Séverine. Et à l'origine, c'est parti d'un travail, encore une fois, scolaire. On travaillait sur la place des femmes d'un point de vue local, en fait. Et pas seulement la place des femmes, on était sur une thématique héros et héroïnes. Donc il y avait aussi des hommes, en l'occurrence. Séverine s'est intéressée à des figures féminines... Laurence s'est intéressée à des...
À lapsus révélateur.
À lapsus révélateur, tout à fait. S'est intéressée aux figures féminines sur Crépier en Valois, et Pierrefonds. Et sur Pierrefonds, elle a découvert Séverine. Et je me souviens un jour où elle est arrivée au lycée en me disant « Écoute, j'ai découvert une journaliste incroyable. » Non seulement elle est de Pierrefonds, donc à proximité, elle a sa maison sur place à Pierrefonds. Et puis, c'était une féministe, c'était une anarchiste, elle était extrêmement connue, voilà, bon. Et puis, entre-temps, Laurence a cherché à approfondir les choses, et en 2020, elle a fait une conférence, alors à destination de nos lycéens, toujours dans le cadre d'un travail qu'on menait au lycée ensemble, sur la place des femmes dans la société, hier, aujourd'hui. Et dans sa présentation, moi, j'ai été absolument subjuguée, en fait. C'est sérieux, enfin, j'ai envie de dire, je suis tombée amoureuse de Séverine. Parce que c'est une personnalité, c'est une femme extraordinaire. Et la manière dont Laurence nous l'a présentée, elle nous a parlé de cette implantation donc, à Pierrefonds, donc, dans un environnement local. Elle nous a parlé de sa maison du fait que Séverine avait été extraordinairement célèbre à son époque et que finalement, elle était complètement tombée dans l'oubli. Et à la fois par ses combats, par son écriture, par sa personnalité, par tout ce qui ressortait en fait de ce que Laurence nous exposait. À la fin de la conférence, je suis allée voir Laurence et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour renaître Séverine, la mémoire de Séverine voilà. » Et moi, parallèlement, je travaillais avec le réseau des maisons d'écrivains et des patrimoines des Hauts-de-France, dont l'objectif est justement de faire renaître des maisons d'écrivains, ressurgir des auteurs, etc. Et je lui ai dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose, on va s'adresser au réseau et on va voir, eux, ils ont une expertise, on va voir ce qu'ils nous proposent de faire. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et la première chose qu'ils nous ont dit, la première chose à faire, c'est faire une association des amis d'eux. Oui. Parce qu'en fait, vous allez, à partir de là, avoir une légitimité à parler de Séverine. Vous allez avoir une reconnaissance. Vous existez, en fait, légalement, juridiquement. Et donc, ça nous a pris un petit peu moins de 6 mois, puisque la conférence de Laurence avait été faite pour le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Et au mois de juillet 2020, nous avons créé l'association Les Amis de Séverine.
Et il y a juste, il y a quelque chose de drôle, comme quoi il n'y a pas de hasard. On a déposé les statuts au mois de juillet et on a découvert, une fois qu'on avait déposé...
C'était le 13 juillet.
Voilà, 13 juillet, on a découvert qu'à deux jours près, c'était la date à laquelle avait été créée la Société des Amis de Séverine. Donc une association qui a été créée lorsque Séverine, par son amie Marguerite Durand, donc lorsque Séverine est morte. Donc... Quand je dis il n'y a pas de hasard, on a créé à deux jours près, on crée notre association le même jour que la Société des Amis de Séverine.
Voilà, donc, on peut interpréter les choses.
Les planètes sont alignées.
Voilà, ouais, il y a un moment, il n'y a pas de... Voilà, voilà. On peut penser que...
Et en fait, effectivement, ce qui est intéressant avec Séverine, c'est que c'est quelqu'un qui a rayonné par ses articles au niveau national, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est implanté localement. Et c'est pour ça que je dis on mène aussi un travail qui est complémentaire, parce que moi, actuellement, je fais justement des recherches sur la maison de Séverine, à partir de quand exactement elle s'est implantée à Pierrefonds. Voilà, quelles sont les différentes dates en fait, auxquelles on arrive à retrouver des traces de Séverine sur place. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, à partir de la guerre de 14, Séverine va moins écrire. Et du coup, là aussi, on essaye de voir s'il n'y a pas d'autres choses qui ont été faites, même localement, par Séverine. Donc, ça fait partie des champs de recherche possibles.
Voilà. Je vais juste faire une aparté avant qu'on reprenne sur Séverine. Moi, je vous ai rencontré donc, lors d'une conférence de la CHAV, la Société d'Histoire et d'Archéologie du Valois. Vous avez fait une présentation, justement. Et moi, c'est pareil. Je suis resté scotché. Ça m'a subjugué. Puis je me dis, il faut absolument qu'on en discute et que vous veniez à la radio, parce que vous êtes habité. C'est incroyable.
C'est gentil. Mais écoutez, merci.
On sent vraiment qu'il y a quelque chose.
Je pense que, oui, c'est une personnalité. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en parler. On a rencontré ensuite d'autres personnes qui s'intéressent à Séverine. Et je pense qu'elles vous en parleraient comme nous, parce que c'est une personnalité vraiment qui est assez extraordinaire. Et c'est vrai que là, vous parliez de la Société d'Histoire et d'Archéologie du Valois. On lui doit quand même une fière chandelle, parce qu'effectivement, Éric Dancon nous soutient et nous invite régulièrement.
Le salue, Éric, alors.
Et on le remercie vraiment, parce que là, il nous donne aussi de la visibilité au niveau de l'association, dans la revue de la CHAV. C'est lui qui nous a proposé de faire cette interview, donc avec un article à la clé. C'est aussi lui qui nous a proposé, effectivement, de faire cette conférence pour présenter les dernières étapes de nos travaux. Donc, c'est vraiment à chaque fois une ouverture de plus. Oui. Mais on est aussi allé, par exemple, à la bibliothèque Marguerite Durand, justement, qui se trouve à Paris. C'est un des hauts lieux des archives féministes. Et là aussi, on a, nous, on y était allés à titre personnel pour faire des recherches. Et puis ensuite, on a rencontré la directrice de la bibliothèque. Et de nouveau, en fait, on a des... C'est pas seulement des portes qui s'ouvrent, mais ce sont des regains d'intérêt, en fait, de la part des lecteurs, des lectrices, des chercheurs, des chercheuses. Et c'est en fait, vous nous demandiez pourquoi on a fait cette association. C'est pas seulement pour redonner de la visibilité à Séverine, mais c'est aussi pour essayer de susciter des pans de recherche universitaire sur Séverine. Et puis, pour faire en sorte qu'à un moment donné... On a le bonheur de voir Séverine dans les manuels scolaires. Enfin, moi, je reviens toujours à la base, à un moment donné, mais si on est dans l'éducation, c'est bien pour ça. Enfin, c'est pour faire connaître nos auteurs, nos autrices. Et moi, je trouve triste de pas l'avoir rencontrée avant, en fait. Ouais. Voilà, tout simplement.
Vous avez des hypothèses pourquoi elle a été un peu oubliée? Et est-ce qu'à Pierrefonds, elle a laissé des traces ou pas dans cette commune?
Alors, d'abord, pour le premier point, pourquoi elle a été oubliée? Bon, elle est journaliste. Elle n'est pas écrivaine à l'époque. Bon, même si elle a écrit un livre, notamment en ligne, ou un autre qui s'appelle Sakatou. Et en fait, les livres qu'elle a essentiellement produits, ce sont des recueils d'articles. Or, le travail de journaliste, par définition, est beaucoup plus, j'allais dire, volatile que le travail d'écrivain. Donc ça, effectivement, c'est la première raison. Alors, j'ai oublié votre deuxième question.
Je voulais savoir si elle avait laissé des traces à Pierrefonds.
Ah oui, alors, des traces à Pierrefonds. Effectivement, alors, à Pierrefonds, il y a sa maison.
D'accord.
Et alors, sa maison, elle est juste en face de la gare. Et on a deux plaques sur la maison, puisqu'il y a une plaque qui indique que, effectivement, Séverine a vécu dans cette maison. Et une autre plaque qui indique que Marguerite Durand a fait de cette maison la résidence d'été des femmes journalistes, puisque lorsque Séverine est morte, son amie Marguerite Durand a racheté la maison et en a fait, pendant quelques années, puisque Marguerite Durand meurt en 1936, elle en a fait une résidence d'été des femmes journalistes, où donc les femmes qui avaient une carte professionnelle pouvaient venir se reposer entièrement gratuitement pendant 15 jours. Donc il y a cette maison à Pierrefonds, et au cimetière de Pierrefonds, il y a la tombe de Séverine, juste en face, la tombe de son mari Adrien Guébart et la tombe de celle qu'elle appelait sa gouvernante, Rosa Vigné. Donc, pour les traces matérielles, j'ai envie de dire, voilà ce qu'on a à Pierrefonds.
Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, à Pierrefonds, pas très loin derrière en fait, la maison de Séverine, il y a encore la maison de Rosa Vigné, qui est toujours habitée par un petit neveu en fait, de Rosa Vigné, avec qui on est rentré aussi en contact. Et là, c'était assez touchant aussi, parce que quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « Ah, mais Madame Séverine, pour ma famille, c'est vraiment un nom qui reste comme exceptionnel. » Et elle a été une grande bienfaitrice, en fait. Et Marguerite Durand a tout fait pour accomplir les dernières volontés de Séverine, qui voulait justement que Rosa Vigné puisse récupérer sa maison et qu'elle continue à y vivre, parce qu'elle avait été à son service pendant de longues années. Et dans le testament de Séverine, que nous avons retrouvé aux archives de l'Oise, aux archives départementales de l'Oise, qui est un document exceptionnel que j'ai eu l'occasion justement de présenter lors de la conférence de la Chave, eh bien, elle parle de Rosa Vigné. Elle fait tout un petit dessin, un plan sur cette maison. Et on sent, par rapport au petit-neveu de Rosa Vigné, que cette mémoire, elle est encore vivante. Et c'est là aussi que, pour nous, c'est quand même intéressant, parce qu'en fait, il y a des personnes. Alors, vous nous demandiez si on avait eu l'occasion de rencontrer des descendants de Séverine. On n'a pas eu l'occasion d'en rencontrer, mais on espère qu'on réussira un jour à en rencontrer, parce que je pense qu'ils ont, eux aussi, beaucoup de matériaux qui peut être exploité, que ce soit des journaux, que ce soit des livres, des objets, enfin toutes sortes de choses en fait, pour réussir à faire renaître cette mémoire de Séverine.
Et alors, une question pour les auditeurs, est-ce qu'on peut préciser comment on peut vous aider, vous soutenir, et où on s'adresse pour avoir des infos sur votre association?
Alors, donc nous sommes une association toute jeune, comme vous l'avez dit, mais on a entre 30 et 35 adhérents.
Oui, c'est à peu près 35. C'est
bien. À peu près 35 adhérents, ce qui est bien. Alors, il faut savoir qu'on a lancé notre association au moment des journées du matrimoine, qui se déroulent en même temps que les journées du patrimoine, mais on voit bien qu'on n'honore pas tout à fait la même chose. Et le nom est révélateur. Et donc, à cette occasion, on a lancé officiellement notre association. Et donc là, on a commencé à faire les premières adhésions. Donc, on peut... donc, il y a plusieurs façons, effectivement, de nous contacter. Alors, on peut adhérer à notre association pour 10 euros. Mm-hmm. Voilà, ce qui est quand même, me paraît-il, tout à fait raisonnable. Et donc, on peut adhérer grâce, sur Internet, si on tape adhésion amis de Séverine, on tombe sur une page qui permet effectivement d'adhérer. On a également un compte Twitter. Donc Amie Séverine, qu'on trouve également très facilement. Et puis, si les gens qui adhèrent, on les tient régulièrement au courant de nos activités, puisqu'il va y avoir une publication
En octobre.
Voilà. En octobre. Voilà.
Et si quelqu'un veut vous aider bénévolement, c'est quoi vos besoins?
Alors à la fois la lecture des articles. Là, actuellement, justement, il va y avoir un recueil d'articles qui va être publié aux éditions L'Échappée. En octobre 2022, que nous allons postfacer. Et c'est le dernier biographe en date, Paul Couturiot, qui est un écrivain belge, qui va faire la préface. Le livre va s'intituler « L'insurgé ». En fait, ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est comment faire pour essayer de numériser les articles de Séverine pour pouvoir les mettre en ligne, parce qu'actuellement ils ne sont consultables que sur le site de la Gallica BNF, c'est quand même pas très très facile d'accès, hein, il faut être honnête, à part quand on est un peu spécialiste ou qu'on fait des travaux de recherche à proprement parler, c'est pas une interface qui est facile à utiliser. Donc par exemple, pour réussir à les mettre sur Wikisource, c'est-à-dire pour les avoir en ligne, Ensuite, donc ça, voilà, s'il y a de bonnes âmes qui sont prêtes à nous aider à collecter les articles, les mettre en ligne, etc., ça serait une bonne chose. Nous n'avons pas de site web parce que nous ne sommes ni l'une ni l'autre des informaticiens et des informaticiennes. Donc,
si quelqu'un écoute,
ah bah voilà.
Si peut vous
là,
créer
si vraiment,
ce site,
si voilà. Vraiment, il y a des gens qui ont des compétences en informatique sur la création de sites web, parce que bon, Laurence évoquait notre compte Twitter, mais même un compte Twitter, il faut le nourrir. Hein, c'est-à-dire que il suffit pas de faire un petit compte. Si à un moment donné, il n'y a pas un peu de vie dans le compte Twitter, bah, ça fonctionne pas. Je ne sais plus combien on a d'abonnés sur le compte Twitter.
Oui, quelques.
Voilà, on est un peu plus. Oui, on est un peu plus. Oui, on est peut-être pas loin même de 150 ou 200. Ah, oui, donc, ça fonctionne pas mal.
Il y a
mal.
Un intérêt quand même pour vos travaux.
Il y a un
alors,
énorme intérêt qui se développe de plus en plus. Je vous disais, il y a peu de temps, j'ai été contactée par une journaliste qui découvre Séverine par rapport à ce qu'elle a fait sur Saint-Étienne. Là, on a été contactée donc par les éditions L'Échappée par rapport à cette publication de recueil d'articles. On sent que c'est en train de bouger. Alors certes, le contexte est propice. C'est une évidence. Mais en fait, là où c'est étonnant, c'est que même les journalistes féministes engagés ne connaissent pas Séverine.
Oui. Donc il y a tout un travail à faire.
Donc il y a un travail à faire là-dessus.
Quand Fred m'a invité à participer à l'émission, j'ai fait des recherches sur Séverine que je ne connaissais pas. Mm-hmm. Et son parcours est vraiment remarquable. Son engagement pour les cas sociaux, tout ça. Enfin, c'est vraiment remarquable pour les femmes. Alors moi, j'ai une question. Les Amis de Séverine, association féministe.
Alors, à la base, ce n'est pas une association féministe. Et je pense que les gens qui ont adhéré n'ont pas le sentiment d'avoir adhéré à une association féministe. Donc ça, c'est effectivement la première chose.
Et c'est pas du tout dans nos statuts.
C'est pas dans nos statuts, hein, puisqu'on c'est pas notre objectif. Après, on l'aura compris, hein, Séverine est quand même une journaliste qui a elle-même été féministe, qui s'est engagée pour de nombreuses causes concernant les femmes. Et je dirais que notre objet, qui est de lui redonner une visibilité et de la faire revivre, on pourrait associer ça à une démarche féministe. Mais bon, notre association n'est pas à proprement parler une association féministe.
Alors, elle n'est pas féministe, mais. Le troisième volet dans les différents objectifs qu'on s'est fixés est de chercher à donner de la visibilité à la place des femmes dans les médias. Donc malgré tout, voilà, cette question de la place des femmes dans la société et dans les médias en particulier, c'est une question qui nous préoccupe, qui nous intéresse et pour laquelle on aimerait effectivement réussir à faire bouger les lignes.
Voilà. Une question qui me taraude, si Séverine vivait en ce moment, comment elle verrait notre société ?
Moi, je pense sincèrement qu'elle, c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui va au fond et au bout de ses engagements. Je pense qu'elle serait très heureuse de voir qu'il y a des lignes qui bougent et que la parole des femmes se libère. Ça, je crois que c'est quelque chose, elle passerait pas à côté.
D'accord avec ça, Laurence ?
Ah bah oui, complètement. De toute façon, vu les articles qu'elle a pu écrire à son époque. Et justement, si aussi c'est une journaliste qui nous intéresse, c'est que lorsqu'on lit ces articles, on trouve des échos à ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Et on voit que la parole de Séverine a encore toute sa valeur aujourd'hui. Et c'est bien ce qui nous intéresse aussi chez cette femme qui écrit, quoi.
Ouais. Mais je crois que Séverine, elle vit en vous, hein.
Notre objectif, c'est d'essayer de toute façon de la ressusciter, si je puis dire. En tout cas, oui, de lui redonner de la faire revivre pour tous les lecteurs, les lectrices, les auditeurs, les auditrices. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour la recherche, pour nos jeunes. Enfin, je pense que c'est vraiment une femme qui mérite qu'on la connaisse.
Oui, elle peut être considérée comme un phare par pas mal de personnes, hommes et femmes, qui luttent contre les injustices.
Oui. Et vous voyez, à Saint-Étienne, il y a une rue qui s'appelle la rue de la petite mère des mineurs. Eh bien, Florence Poli, donc journaliste à Saint-Étienne, ne savait pas que la petite mère des mineurs, c'est Séverine.
C'est Séverine, d'accord. Voilà.
Et en fait, elle est plus présente qu'on ne le croit, même dans le territoire. C'est-à-dire qu'il y a des rues Séverine, personne ne sait qui est Séverine. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de plaque dessous. Mmh. Voilà, donc à un moment donné... Il faut donner de la visibilité à des personnalités pareilles.
Alors, excuse-moi Olivier, malheureusement, le temps passe vite. Il ne nous reste que deux minutes, hein, deux, trois minutes. Je te le donne la parole après, juste Olivier. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une actualité, des événements à venir pour vous ou pas?
Non, l'actualité, là, la plus importante, c'est la publication de l'insurgé.
D'accord.
Et nous allons participer, grâce au réseau des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires des Hauts-de-France, à un voyage d'études en Belgique au tout début du mois de juin, dans le but de rencontrer des structures similaires, en fait. Donc, moi, je me dis que comme Séverine a rencontré Vallès à Bruxelles, qui sait, à Bruxelles, il y a peut-être aussi des traces de Séverine.
Oui. Oui. Olivier, je te laisse conclure.
Moi, je voudrais savoir, est-ce quelle épitaphe est gravée sur la tombe de Séverine? Parce que j'ai deux articles devant moi, et l'un dit « Elle ne revendique qu'une épitaphe, je suis Séverine, rien que Séverine, une isolée, une indépendante. » Et puis l'autre, « Elle avait demandé que soient inscrits ces mots, « J'ai toujours travaillé pour la paix, la justice et la fraternité. »
Alors ça cherche là, hein.
Écoutez, la première, c'est sûr que c'est pas celle que vous avez citée, c'est pas celle qui figure sur la tombe de Séverine. Et donc celle qui figure sur la tombe de Séverine, on va y arriver. Elle arrive. Voilà. Ah. Alors donc, j'ai toujours lutté. Je pense que le mot lutter est important.
Oui. Femme de combat.
Pour la paix, la justice et la fraternité. Paix avec une majuscule, justice avec une majuscule et fraternité avec une majuscule. Et on trouve effectivement cette tombe à Pierrefonds. Donc ça,
c'est gravé.
Voilà, c'est gravé dans le marbre.
Dans le marbre, on peut dire.
Voilà, tout à fait. Et c'est elle qui avait dessiné son monument funéraire.
En plus.
Voilà.
Oui, donc elle savait ce qu'elle voulait. Quoi.
Ah ben écoutez, ah, ça, il suffit de lire son testament.
Ah, il est extraordinaire.
Vous viendrez nous le lire une prochaine fois, alors. On vous réinvite.
Peut-être pas dans son intégralité, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas être très intéressantes.
Par contre, Sophie, ce que je voudrais bien, c'est qu'on finisse avec le petit article que vous avez lu pendant la pause musicale. Ça serait sympa.
Ouais.
Moi, je veux dire aux auditeurs que l'émission se termine, qu'on aura une rediffusion le dimanche à partir de 16h et le mardi à 10h, et après en podcast, et que nous allons remettre un diplôme d'émancipation radiophonique à nos invités. Merci Laurence, merci Sophie. La parole à Sophie pour finir l'émission.
Ce que je vais faire maintenant, c'est l'école buissonnière de la Révolution. J'irai de droite ou de gauche, suivant les hasards de la vie, défendant toujours les idées qui me sont chères, mais les défendant seules, sans autre responsabilité que celle de ce que j'aurais signé de mon nom. À l'heure présente, je n'ai pas écrit une ligne qui ne puisse figurer en tête du cri du peuple, et il en sera de même à l'avenir.
C'était une émission de la rédaction de RVM.